Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre espace de discussion en rapport avec les examens à grand tirage qui approchent. Nous parlerons aujourd'hui de fraude aux examens scolaires. Comment lutter contre ce problème pour rechercher des solutions et en savoir plus sur les actions de lutte? Nous recevons sur notre plateau Claude Cadio Aka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'OPECI, organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Avec vous, Bohou Béranger, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le coordinateur national du mouvement citoyen Ta Voix Compte.
Exactement.
Merci à tous les deux pour votre présence. Alors, pour aborder notre sujet du jour, qu'est-ce qui fait tricher les élèves aux examens? On reste avec vous, Bohou Béranger.
Eh bien, ce qui fait tricher les enfants, je pense que c'est le manque de confiance en eux. Voilà. Et on est là pour qu'on puisse prodiguer les conseils aux enfants et lutter contre ça.
Claude Cadio Aka.
Un examen, c'est toujours un moment de stress permanent. Quand on arrive à ce stade-là, l'enfant pense qu'il n'a rien dans la tête. Il est perturbé, il est perdu complètement. Alors que c'est lorsque on va distribuer les feuilles que vous allez voir qu'effectivement, il y a quelque chose dans votre tête. Donc, il y a cette pression-là qui fait que l'enfant se dit, bon, écoute, il faut que je trouve quelques petits moyens pour quand même arriver. Et puis, il y a aussi le fait que l'enfant, ses parents, le regardent. Toute la société, tout son environnement ambiant qui le regarde. Donc, il y a une pression sociale, sociologique, psychologique qui pèse sur lui. Et donc, ça l'amène.
Et l'obligation de résultat.
Une obligation de résultat, il faut qu'il arrive. Mm-hmm. Donc, vraiment, tout cela concourt à ce que l'enfant puisse penser à tricher. Or, tricher, ce n'est pas une bonne chose, malheureusement.
On pourrait dire que tricher, c'est voler.
Eh bien, c'est voler, mais si tu triches, tu voles. Hein. Celui qui triche, il vole. Si tu triches, ça veut dire que tu veux passer par des moyens détournés, des moyens non conformes pour arriver à un résultat, à une conclusion. Ce n'est pas normal. Voilà donc la pression.
D'accord. On va aborder le volet de l'état des lieux. Justement, pour parler de l'ampleur de ce phénomène, la DECO, qui est la Direction des examens et concours, a communiqué le mercredi 17 mai dernier des chiffres. Mais on va juste prendre l'exemple au BEPC, où la tendance est passée de 248 cas de fraude en 2020 à 865 en 2021 et 1840 en 2022.
Oui.
Alors, il y a une hausse. Et par contre, chez les plus petits au CEPE, l'année dernière, en 2022, il y a eu zéro cas de fraude.
Oui, au CEPE, généralement, il y a moins de cas de fraude quand même, parce que le niveau est encore bas, et donc c'est plus prenable. Au fur et à mesure qu'on évolue, la situation devient plus compliquée, et c'est là que les techniques de triche commencent à s'exercer, à se percevoir.
Alors, pour faire un peu l'état des lieux.
Mais au niveau de l'état des lieux, au niveau du bac en 2020, il y a eu 16 000 cas.
Exactement.
Ça a défrayé la chronique.
16 900.
Ça a défrayé la chronique. En 2021, il y a eu 10 000 cas. Et puis, bon, en 2022, autour de 5 900. Ça a baissé considérablement. Bon, cela se justifie par le fait que des mesures draconiennes ont été prises.
Il y a une prise de conscience.
Le système de traçage aussi même, et tout ça.
Renforcé.
Voilà. Et il y a eu une prise de conscience générale. Chacun s'est dit, écoute, on ne peut pas laisser nos enfants comme ça à la dérive. Il faut qu'on lutte. Donc, il y a eu beaucoup de groupements.
D'accord.
Qui
alors,
ont commencé,
si vous le permettez,
à faire des sensibilisations.
Oui. On aura justement le temps de parler des moyens de lutte. Tout à l'heure, par rapport aux chiffres qu'on a donnés, on a vu qu'au niveau du BEPC, les chiffres étaient vraiment en hausse.
Oui.
Alors, ce point.
Effectivement, c'est en hausse parce qu'il faut comprendre aussi l'âge. Les enfants, payés de 15 ans, 16 ans, la peur. Et là, et comme tout à l'heure, il l'a dit, ils ont peur, ils veulent voir obligation des résultats. Et à cause de cette obligation des résultats, ils font des choses pas bien. Mais par contre, les plus grands qui sont en terminale, il y a une baisse parce qu'il y a une prise de conscience. C'est important pour un enfant de bien étudier parce que les sujets d'examen ou encore les compos ne sont pas quand même au-dessus de leur force. C'est à la portée de tous. Voilà, comme on dit toujours, nous, on a tous passé par là, que c'est le niveau moyen d'un enfant qu'on prend toujours pour donner un sujet. Donc, Ce qui explique réellement ça, c'est que lorsque l'enfant en CP arrive à la classe de 3e, c'est l'adolescence. Et là, maintenant, la pression à la maison, tout ça. Je dois avoir mon examen.
Comme expliqué un peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui favorise la tricherie? Est-ce que c'est parce qu'il y a des fuites d'épreuves avant le jour même des examens? Qu'est-ce qui fait que souvent...
Les fraudes, il y a plusieurs étapes. Hein. On peut frauder avant les examens, on peut frauder pendant les examens, on peut frauder après les examens. Et donc, il y a plusieurs types de fraudes.
Et généralement, qui est impliqué dans les fraudes aux examens scolaires?
Il y a nos enfants, mais il y a aussi les acteurs, les enseignants qui fraudent. Et cette année, le ministre a décidé de frapper fort en sortant une décision qui sanctionne les enseignants. Donc, les enseignants également fraudent. En 2014, si on prend 2014, il y a eu 69 enseignants qui avaient fraudé. Et en 2022, 331 enseignants qui ont fraudé aux examens. En 2021, 309, etc. De 2014 à 2022, on s'est rendu compte que les fraudeurs ne sont pas seulement que les enfants, mais il y a aussi les professeurs. Donc, ils ont été sanctionnés et le ministre a sorti une décision où le professeur est terriblement exposé parce qu'ils vont être pénalisés. On va leur arracher leur autorisation d'enseigner.
Là, voilà. Vous anticipez sur l'une des questions, justement par rapport aux sanctions. Mais déjà, quelles sont les méthodes employées? On va dire les stratégies de tricherie.
Il y a plusieurs stratégies.
Comment c'est organisé?
Il y a plusieurs stratégies.
On va y aller d'abord avec vous, Béranger.
Il y a tellement de stratégies parce que non seulement même les enfants, par exemple, avec les téléphones portables, il y en a même qui mettent le téléphone dans du pain, souvent dans des tissages. Il y a tellement de stratégies. Mais comme tout à l'heure, il y a eu un papa. Madame le ministre a vraiment fait vraiment du bon boulot parce que lors de la réunion de la rentrée le 6 septembre 2022, quand elle a sorti les chiffres, elle a appelé tous les acteurs à l'accompagner pour pouvoir lutter efficacement. Mais... comme tout à l'heure, il a dit le papa, c'est qu'il faudrait également que les enseignants, les parents d'élèves aussi surtout, s'impliquent efficacement. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui valorisent là. Pourtant, quand un enfant est attrapé, il met en péril 3-4 ans de
sa scolarité.
De scolarité, justement. Donc, il est important pour nous, pour les parents, pour tout le monde, de s'impliquer efficacement.
D'accord. Donc, sur la même question, Claude Kadiouaka.
Donc, il y a les détentions de documents non autorisés. Quand on va, en allant aux examens, on prend les documents sur soi. Il y en a qui écrivent sur leur cuisse et tout ça. Bon, il y a le refus de se faire fouiller aussi. Ça, c'est une fraude aussi. Il y a la menace des enseignants. Il y a au niveau des...
La menace des enseignants, comment?
Il y a des enfants qui menacent parfois les enseignants, qui cherchent à les fouiller et tout ça. Voilà. Donc, ça, il faut l'éviter. Parce que si vous menacez un enseignant, ben, ça peut vous coûter votre examen. Il y a aussi le téléphone portable qui constitue le gros lot.
C'est le gros lot.
Le gros lot. Ce qui fait que le ministre, l'année dernière, a pu faire introduire les caméras de surveillance. Et c'est tout cela qui a fait qu'il y a eu moins de fraudes l'année dernière.
D'accord. Alors, selon justement les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, 80% des cas de fraude sont localisés dans le district d'Abidjan.
Oui. Au niveau des drains, il y a 4 drains à Abidjan. Le pic, c'est la draine d'Abidjan 4. C'est-à-dire Abobo, la zone d'Abobo. Après vient la draine de le Pougon. Et puis la draine d'Abidjan 2. Toute la zone derrière l'eau.
Et la
draine d'Abidjan 1. Abidjan 1, vraiment, il y a très peu de fraude. On a des statistiques claires ici. Il y a très peu de fraude au niveau de la draine d'Abidjan 1.
Abidjan 1, c'est où exactement?
Abidjan 1, c'est Benjerville, Cocody, voilà. Plateau. D'accord. Voilà, c'est la draine 1, ça. Abidjan 2, c'est Marcoury, Port-Boué, Trècheville, voilà, toutes les écoles qui sont derrière l'eau. Et puis la draine d'Abidjan 3, c'est toute la zone de Yopougon. Donc c'est la zone d'Abidjan 4 où on détecte beaucoup plus de fraudeurs.
Mais pourquoi ce état de
fait? Ce sont des zones assez peuplées. Ce sont des zones où la violence est significative. Et donc ce sont ces zones-là qui se prédisposent, parce qu'il y a beaucoup de mauvais exemples que les enfants voient. Et donc, ils veulent expérimenter. Et donc, tout ça, ça fait partie de la fraude. Mais c'est pour ça que dans ces zones-là, il y a beaucoup plus de fraudeurs. Quand on te dit que l'Abidjan 1 est moins dangereux, on se rend compte que quand même, Cocody, Benjerville et autres, ce sont les quartiers où habite l'élite du pays. C'est sûr qu'il y a le banditisme et tout ça, mais vraiment à un degré moindre. Voyez. Donc, les quartiers populaires non, mais et autres prédisposent à l'enfant à des dysfonctionnements.
Je pense que
ce qu'il faut sentir, c'est que papa disait que c'est les zones peuplées. Voilà, c'est pourquoi les cas de fraude sont élevés, c'est les zones peuplées. Voilà.
La vie est beaucoup plus pénible. Voilà.
Non.
Apparemment, Bobo Béranger n'est pas d'accord avec la vie de
Je ne suis pas. Mais bon, les chiffres sont là. Donc, parce que les chiffres sont là. Mais dit que c'est parce que ces zones-là sont. Il y a peut-être moins d'éducation. Non, je ne sais pas. La tricherie, c'est partout.
Oui, bien sûr.
C'est partout, même au sommet de l'État. Ça dépend seulement ce moment. Voilà, donc c'est partout. Donc, il ne faut pas.
Bon, là, on est dans le cadre de la tricherie. En milieu scolaire,
c'est partout. Je vais dire donc, je vais dire par là qu'en milieu scolaire, ce qui explique, c'est parce que ces zones-là sont peuplées. Et comme tout à l'heure, il y a dit, la zone d'Abidjan est la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que Abidjan soit en tête. C'est vrai qu'Abobo est en tête, mais ce qui explique, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes à Abobo. Il y a tellement d'écoles, donc ce qui explique. Vous prenez par exemple toute la zone de Cocody. On va citer les collèges, il y a combien de collèges? Mais allons à Abobo. Donc, donc ce n'est pas parce que ces zones-là sont dangereuses que peut-être que les parents, non, mais la tigérie, c'est tout le monde.
Il y a cela, mais il y a aussi les écoles.
Voilà.
Les écoles où on forme les enfants.
Il y a beaucoup d'écoles
qui ne remplissent pas les conditions pour donner une formation adéquate. Et donc, lorsque l'enfant n'est pas bien formé, eh ben, il est tenté d'aller tricher. Et souvent, ce qu'on prend au niveau des enseignants, ce sont des enseignants souvent qui viennent des écoles privées, ils viennent surveiller. Parce qu'à un moment donné de l'année, ils n'ont plus de salaire. Ils n'ont plus rien. Et donc,
je pense,
ils profitent de l'occasion pour
se faire de l'argent.
Et en se faisant de l'argent, ils rendent un mauvais service à nos enfants et à eux-mêmes. Voilà. Parce que lorsqu'ils sont pris, ils sont sanctionnés. Ils perdent leur travail. Voilà.
Tout à l'heure, comme disait papa, je disais tantôt, je disais qu'il y a vraiment, tout le monde doit s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse vraiment les états généraux de l'éducation.
On l'a fait.
Voilà.
Alors, quand vous dites que tout le monde doit s'impliquer, tout à l'heure, parlons des personnes qui, justement, participent à cette fraude aux examens scolaires. Alors, on n'a pas vraiment mis l'accent sur le rôle des parents. Bon, Claude Kadiouaka, vous êtes sur le plateau, vous représentez les parents d'élèves.
Tout à fait.
Quel est justement votre rôle dans cette fraude?
Les parents ont un rôle prépondérant dans ce qui arrive aux enfants. C'est le parent qui donne l'éducation à son enfant. L'éducation commence à la maison. Si à la maison, on a appris à l'enfant à ne pas voler, à ne pas tricher, et qu'on donne de bons exemples, si les parents même sont exemplaires, mais leurs enfants vont être de bons enfants exemplaires. Parce que l'enfant copie sur l'adulte. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il répète.
Mais qui donne, par exemple, puisque vous parlez de moyens financiers, justement, par rapport aux enseignants, qui le donne?
Lorsque l'enfant va à un examen, moi, personnellement, je ne donne pas de l'argent à mon enfant pour qu'il aille à l'examen. Je lui donne ce dont il a besoin, c'est-à-dire sa nourriture, son déplacement, et puis juste un peu d'argent au cas où il y a un risque, quelque chose, quelque part. Mais il y a des parents qui donnent suffisamment d'argent. Et ils se disent, bon, mais tu t'en vas. Si tu arrives que, bon, il y a une situation qui se présente, bon, voilà de l'argent, tu peux. Et moi, j'ai été ahuri un jour en causant avec un haut cadre, qui me dit, mais moi, écoute, papa, moi, quand mes enfants vont à l'examen, je leur donne suffisamment d'argent. Donc, vous voyez, ceux-là, ils encouragent les enfants à la fraude. Et ça, c'est pas bon. Le parent doit pouvoir
compter sur le travail de l'enfant. Et l'enfant doit compter sur son travail. On ne doit pas l'encourager. Et si l'enfant sait qu'on l'encourage, eh bien, ça va se diffuser autour de lui. Ça se propage. Le mal, ça se propage facilement. Et donc, ça gangrène le milieu ambiant de l'enfant. Et donc, la responsabilité des parents est vraiment à relever. Parce que si les enfants ne voient pas les adultes tricher, si les enfants ne voient pas les adultes mal se comporter, eh bien, ils se comporteront bien. L'enfant, tout petit, tout ce qu'on lui a mis dans l'esprit, c'est ce qu'il va reproduire au fur et à mesure qu'il va grandir. Voilà pourquoi les parents doivent faire beaucoup attention dans l'éducation de leurs enfants. Parce que les enfants ne reçoivent pas l'éducation à l'école. Ils reçoivent la formation à l'école. Il y a l'éducation, il y a la formation. Les enseignants sont là pour enseigner, pour donner la formation. Ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants de sorte à ce que ces enfants-là ne soient pas des voleurs et des tricheurs. Hein, avec de bonnes règles d'hygiène. Si l'enfant doit être propre, c'est parce qu'à la maison, il y a la propriété de la maison. Si l'enfant est sale dehors, c'est parce qu'à la maison, c'est sale. Voilà.
Ok, alors, quand on échangeait juste avant l'antenne, vous avez attiré l'attention sur le cas d'enseignants, par exemple, qui reçoivent au cours des examens des élèves qui viennent et qui, par exemple, leur demandent le stylo rouge ou le stylo vert.
Voilà. Le bic rouge correspond à un montant d'argent que l'enfant doit payer. Donc, quand on dit bic rouge, peut-être que c'est 2000 francs, par exemple. Un bic bleu, bon, c'est peut-être un billet de 10 000 francs, etc.
Donc, chaque couleur correspond à une somme d'argent,
à un montant
bien précis.
Et les enfants tombent dans le jeu. Et ça, on le voit. Et donc, quand on prend l'enfant et l'enseignant, eh bien, les deux écopent des sanctions.
Justement, pour parler des sanctions, à quoi s'exposent les candidats et les acteurs de fraude aux examens?
Les sanctions, ça va jusqu'à 5 ans, mais les 5 ans sont de moins en moins appliqués. Aujourd'hui, les sanctions partent d'un an à 3 ans.
À 3 ans.
Pourquoi avoir réduit?
On l'a réduit parce que on voyait qu'on faisait du mal aux enfants. Parce qu'un enfant qui reste pendant 5 ans sans passer l'examen, ben c'est sûr qu'il va décrocher. Alors, pendant que nous parlons de l'école inclusive, de l'école qui va jusqu'à 16 ans, si on met ces règles, ces lois-là, beaucoup de nos enfants n'arriveront pas à atteindre l'âge de 16 ans.
Ils seront sortis du système.
Mm-hmm. Et donc, après réflexion, eh ben, on a vraiment réduit. Et donc, la plus grosse peine maintenant, hein, c'est 3 ans. L'année où on t'a attrapé, on annule l'examen. En plus de cela, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de la gravité de la faute commise. Voilà.
Et pour ce qui est des acteurs?
Les acteurs, ben, on lui retire l'agrément. Et puis, il est interdit de participer aux examens. Pendant 5 ans, il ne vient pas aux examens. Voilà. Et donc, quelqu'un qui, de temps en temps, il va se faire de l'argent là-bas, s'il ne vient pas, ça lui fait de la peine. Voilà. Donc, on a un peu les sanctions.
Des poursuites judiciaires aussi?
Bien sûr, il y a des poursuites judiciaires aussi, oui. Mmh. Si vous causez du tort à quelqu'un, eh bien, vous pouvez aller en prison. Hein.
Sans oublier les sanctions disciplinaires.
Tout à fait, voilà.
D'accord. Vous voulez acheter quelque chose là-dessus, Bou Béranger?
Oui, effectivement. Tout à l'heure, concernant l'aide des enseignants, il faudrait réellement qu'on puisse réellement repenser ce système parce que cela est dû au fait qu'il y a des écoles qui n'ont pas vraiment le niveau et des personnes qui créent des écoles sans toutefois avoir des moyens pour pouvoir payer des enseignants. Et comme tout à l'heure, Papa Yaya le dit, un enseignant qui n'est pas payé se fera payer sur le terrain. Donc il faudrait réellement qu'on puisse repenser le système. Dieu merci, les états généraux de l'éducation ont été faits et les résultats, je crois, sont à la portée de tous. La population.
Les résultats sont là, mais on n'a pas encore ça.
Justement.
C'est pas encore édité.
Parce que
le plan doit comporter 3 volumes. Il y a le plan lui-même, comme on a fait pour le plan stratégique éducation-formation. Il y a le plan, le projet lui-même. Et puis il y a l'aspect financier. Il y a un document financier qui accompagne le budget, qui accompagne. Et puis il y a un document de suivi-évaluation. Ça, ce n'est pas encore fait.
D'accord.
Donc, il faudrait qu'on ait ça. Il faudrait qu'on ait ça.
Justement, voilà.
Pourquoi d'accord, on ne va pas s'éloigner du sujet. Hein, aujourd'hui, nous parlons plutôt de fraude aux examens scolaires. Alors, à l'instar de vos actions, dont on parlera bien sûr dans quelques instants, une campagne de sensibilisation est initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à l'intention des chefs d'établissement pour les inciter à s'engager davantage dans la lutte contre la fraude aux examens scolaires. Ces derniers ont d'ailleurs été récemment formés aux stratégies de lutte contre la fraude. Qu'en pensez-vous ? Quel peut être, selon vous, leur rôle dans cette lutte ?
Leur rôle est très important. Leur rôle est très important parce que aujourd'hui, ils impliquent véritablement. Il y a une prise de conscience de façon générale. Donc, leur rôle est très important parce que dans la mesure, c'est, ils sont toujours avec les enfants. Tous les 9 mois des cours, ils sont toujours là. Ils connaissent les classes, ils connaissent, ils savent identifier. Et comme ça, quand eux, ils ont déjà les chiffres, ils ont déjà identifié. Quand nous on arrive, on peut par exemple dire bon. Troisième, cinquième, il y a tellement de tricheries là-bas. Allez-y, formez-les, faites des conférences avec eux, faites des clubs de lecture avec eux. Donc, leur rôle est vraiment très important. Parce que c'est eux qui nous indiquent. C'est comme des indicateurs qui montrent réellement ici, dans telle zone, il y a telle personne. Dans telle classe, il y a telle personne. Donc, sans toutefois les dénoncer de façon pour les jeter à la vindicte populaire, non. Mais, quand on va vers eux, par exemple, on va vers tel proviseur A, madame le proviseur, même monsieur le proviseur, votre école ici, c'est comment ? On va dire, bon, terminal D5 là. Là-bas, quand on fait toujours les compos, il y a tel trichet. Donc, le rôle des enseignants sont vraiment importants. Et maintenant, le ministre a vraiment compris cela. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'espoir pour l'école ivoirienne parce que celle qui est ministre là, actuellement, elle connaît le système. Voilà.
D'accord. Claude Kadiouaka sur la même question.
On a dit au départ qu'il y avait une prise de conscience. Ça veut dire que chacun se dit que c'est pas normal que. On laisse nos enfants dans la tricherie. Donc, il y a des organisations. Nous, par exemple, chaque année, à la veille des examens, nous organisons des campagnes de sensibilisation dans les écoles. L'année dernière, par exemple, nous avons fait 6 établissements où on a pu atteindre quand même 10 000 élèves. 10 000 élèves que nous avons pu sensibiliser. Cette année, nous avons commencé... J'étais au lycée Garçon de Bézerville où nous avons pu atteindre 300 enfants qui ont été sensibilisés. Et nous entrevoyons prendre encore 5 établissements avant les examens pour dire que chacun doit pouvoir s'impliquer pour que nous puissions enrayer cela parce qu'il faut absolument recréer une nouvelle manière de penser, un nouveau dynamisme, faire en sorte que on puisse... avoir nos examens de façon propre, voyez, pour ne pas avoir regret après. Parce que vous pouvez avoir un diplôme, et puis vous-même qui avez le diplôme, vous n'en êtes pas fier. Parce que vous savez que vous ne méritez pas ce diplôme.
Vous avez un cas de conscience.
Voilà, vous avez un cas de conscience. Mm-hmm. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut crédibiliser aussi nos diplômes. Lorsque nos enfants vont à l'étranger, par exemple, eh bien, ils sont obligés de reprendre parfois les cours. Parce qu'on n'a pas confiance en nos diplômes. Il faut donc redonner une nouvelle dimension à notre système, donc à nos diplômes, pour que l'école ivoirienne puisse retrouver cette école de qualité que nous voulons acquérir. Oui.
D'accord. Béranger Bohou, à l'initiative de votre structure Ta Voix Compte, la caravane Zéro Fraude en période d'examen a été lancée le lundi 8 mai dernier au lycée moderne de Cocody. Toujours parlant des actions de lutte. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'abord d'interpeller, de sensibiliser et de montrer aux enfants à quoi ils s'exposent lorsqu'ils sont dans la fraude à Tichéry. Parce que comme tu as tout à l'heure dit, papa, il faut une prise de conscience générale. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Chaque année, il y a des chiffres, les chiffres sont là, les enfants sont attrapés, 3 ans, 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit laisser le ministère se débattre seul ou notre rôle d'éducation à la citoyenneté s'impliquer et accompagner vraiment les acteurs, ou les sensibiliser, les former. Donc, la caravane consiste à interpeller les enfants, à leur dire d'avoir confiance en eux, et que l'examen est à la portée de tous. Il suffit d'étudier, de prendre conscience que ah, je vais à l'examen, c'est le sujet moyen qu'on va me donner, c'est pas au-dessus de ma portée. Ça est à la portée de tous. Donc nous nous sommes dit, c'est notre pays, c'est nous, c'est nos enfants, ce sont nos petits frères, alors on ne peut pas les laisser seuls. Il faut vraiment les sensibiliser. Et cette caravane a eu vraiment une grande réussite. On continue à le faire. Nos représentants au niveau d'Indoussi, de Boaké, de Kourougo sont sur le terrain, ils travaillent. On va les rejoindre sur le terrain et on va travailler ensemble avec eux. Donc cette caravane consiste d'abord à inculquer des valeurs aux enfants, à les interpeller, à les former et à leur donner une confiance en soi qui leur permettra de pouvoir être le meilleur des modèles.
L'école appartient à la communauté. Cette communauté-là doit pouvoir faire des efforts. Alors, quand tu parles de caravane, quand on parle de sensibilisation, ça a un coût.
C'est un coût.
Nos petites organisations, nous nous débrouillons.
Bon, là, on va parler en même temps des défis de la lutte.
Eh bien, bien sûr.
C'est ça,
il faudrait que la communauté aide ceux qui font la campagne pour que ce soit, ça se vulgarise, que ça devienne quelque chose de national. Hein, de sorte que, bon, on se rende compte, effectivement, que c'est sérieux ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants. Parce que si on arrive à sortir de là, c'est le pays qui gagne. Et ça peut-être arriver au sommet à dire, écoute, si les enfants ont compris qu'on ne doit pas tricher, bon, à un certain niveau également, il ne faut peut-être pas aussi qu'on triche. Voilà.
Et puis là, on pourrait assainir le
milieu social.
Exactement.
D'accord. Pour
concernant les coûts, c'est vrai, c'est une génération conforme. Oui. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Peut-être qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes. Peut-être qu'on ne verra pas les résultats. Mais je pense qu'en inculquant cela, en leur donnant des valeurs, dans 15 ans, 30 ans, 20 ans, ces valeurs vont se réjaillir sur la société. Par exemple, nous, ta voix compte, c'est M. Serge Do, athlète international, qui nous aide. Mais ce monsieur, à un moment, il va s'émousser. Donc, il faudrait réellement que le ministère aussi tienne compte de nous, pour qu'on puisse réellement les accompagner. Parce que nous, on en contacte et puis...
D'accord, en tout cas, que les moyens financiers surtout soient mis à votre disposition pour vous aider dans la lutte
on connaît les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous connaissons tous
les petits codes. Au-delà, bien sûr, des défis liés aux moyens financiers, qu'est-ce que vous pouvez relever d'autre?
Il y a aussi un moyen qu'on utilise beaucoup, les réseaux sociaux. Par exemple, les congés anticipés. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux partout. Il n'y a pas eu de congés anticipés. Donc, c'est ça. Hormis les moyens financiers qu'il faut, il faut que chacun même s'implique. Parce que quand on le veut ou pas, Facebook, WhatsApp, Internet est devenu vraiment le moyen de communication.
Voilà. La communication est très importante. Il faut donc même faire les porte-à-porte, pourquoi pas. Voir avec les églises et tout ça. Faire des communiqués dans les églises.
Les communautés religieuses.
Dans les mosquées, les églises et tout ça. Et sensibiliser, on peut sensibiliser les parents, partout où ils se trouvent, hein, partout où il y a regroupement, on peut sensibiliser et traiter les vraies thématiques pour que chacun se dise, oui, c'est vrai, c'est sérieux, il faut que moi aussi, je m'implique.
Concernant les porte-à-porte, bon, c'est pas évident de faire des porte-à-porte, mais il faudrait réellement que toute la communauté soit impliquée. Église, mosquée.
Il faut que l'information passe.
Tout le monde doit s'impliquer. Sinon, on va vraiment à la dérive. Ça fait vraiment mal parce que tu vois un enfant, par exemple, souvent, très souvent, il se met dedans à cause de leur compagnie ou autre. Ils le font parce qu'il a manque de confiance. Il se dit que non, c'est trop dur, il a échoué. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce que la société va dire de moi? Et là, il se pénalise.
Ouais, alors, on va terminer notre émission. Mmh. On reste avec vous, Béranger Gbohou. Mmh. Quel conseil pour éviter la tricherie aux examens scolaires?
Le seul conseil, c'est la confiance en soi. Parce que nous, on est passés tous par là. Et je l'ai dit simplement que d'avoir confiance en eux. On ne donne pas un sujet qui n'est pas à leur portée. Voilà. Nous tous, moi, je me souvenais très bien quand j'étais au bac. Le sujet qui est venu, c'était un sujet qu'on a déjà en classe dans le temps. Et puis c'était encore dilué même. On était vraiment très heureux, le bac D, en 2011. Voyez un peu. Donc il faudrait également qu'ils comprennent que rien n'est au-dessus de leur portée. Tout est à leur portée. Qu'ils ne mettent pas leur avenir en péril à cause de tricherie. Donc le conseil que je peux leur donner, échouer, ça ne veut pas dire que tu as perdu dans la vie. Non, tu peux reprendre encore, aller de l'avant. Qu'ils comprennent cela. Et puis aussi les enseignants qui nous aident aussi réellement. Parce que les enseignants qui prennent de l'argent, big rouge, big bleu, bon, qu'on arrête. Pour finir, je peux vraiment simplement leur dire, examen approche, il ne faut pas mettre ton avenir en danger. Il ne faut pas faire en sorte que tu aies à peine 3 ans, 4 ans. Non, va, étudie. ça sera ta portée.
D'accord. Béranger Bouhou, qui est le coordinateur national du mouvement citoyen Ta Voix Compte, eh bien, qui donnait des conseils aux élèves, aux éducateurs et tout, en tout cas, pour éviter la tricherie aux examens scolaires. Et bien sûr, le mot-clé, la confiance en soi, adressé aux élèves. Claude Kadioaka, en tant que parent d'élève, quelles recommandations pour un bon comportement pendant les examens?
Il faut d'abord se préparer. L'examen, ça se prépare. Hein. Un examen, on ne tombe pas comme ça dessus. Ça se prépare. Si on doit passer le bac, c'est depuis le CP1. Et donc, il faut prendre les dispositions.
Il ne faut pas le faire peur quand même.
Et ça se prépare avant. Il y a les préparations avant, pendant et puis après. Voilà. Donc, avant d'aller à l'examen, il faut être sûr de soi, prévoir le matériel nécessaire, avoir un bic. Et ce qui trompe souvent les enfants et qu'on assimile à la tricherie, parfois il va avec deux bics de couleurs différentes. Si vous allez avec deux bics de couleurs, vous allez écrire avec ces différentes couleurs et on va penser que tu as triché. Donc avant d'aller, il faut avoir peut-être deux ou trois bics de même couleur, de sorte qu'on ne puisse pas vous soupçonner de tricher.
Soit dit en passant, pour un élève qui se retrouve dans une telle situation, avec deux stylos de couleurs différentes sur une copie.
Mais ça fait partie des sanctions, justement.
L'élève sera sanctionné même s'il n'a pas triché.
Bien sûr, c'est pour ça que je suis venu, pour dire aux enfants, en allant, il faut prendre deux ou trois bics de même couleur. Voilà. Et quand vous arrivez, vous avez ce bic-là. Prévoir vraiment votre trousse à la veille. Avant d'aller, il faut prévoir tout ce que vous allez utiliser là-bas. Évitez d'aller avec des documents. Évitez d'aller également avec votre téléphone portable. Hein, tout cela va vous faire perdre. Il faut arriver à l'heure dans le centre. Il faut éviter de communiquer avec tout le monde. Votre place qu'on vous a dédiée, vous restez là. Quand on vous donne la copie, il faut vérifier que la copie est stickée et tout ça. Il faut rester, quand vous avez fini de traiter le sujet, il faut rester jusqu'à ce que le professeur vienne ramasser la copie. Parce que si vous sortez et vous laissez, eh bien, quelqu'un d'autre peut substituer votre copie à la sienne. Et donc, se soumettre à la fouille, si on veut vous fouiller, etc., etc. Donc, ce sont ces conseils-là. Et il y a aussi le fait que certains élèves, et ça c'est les parents, certains élèves passent l'examen avant d'arriver à la classe où on doit passer l'examen. Par exemple, tu es en classe de 4e. Et comme tu penses que tu es fort, tu vas aller passer le BEPC en classe de 4e. Désormais, si on vous prend, eh bien, vous êtes sanctionné. Et vous êtes recalé. Et vous avez 3 ans sans passer l'examen.
Alors, on va insister sur ce point. Ça veut dire quoi? Je suis en classe de 4e.
Tout à fait.
Et comptant sur mes performances. Je décide ou plutôt mes parents décident de m'inscrire pour le BEPC qui doit être présenté en classe de 3e. Alors, étant en 4e, je présente le BEPC en 3e. C'est une.
Parce que tu penses que tu es tellement fort, donc tu vas aller passer le BEPC étant en 4e. C'est une faute. Hein, et la déco.
Qui est passée de sanction.
N'admet pas ça, oui. C'est passé, ça s'applique cette année. Ça va s'appliquer cette année. Donc, il faut éviter ça.
Alors, si j'espère, que les parents d'élèves prendront
note. Il faut qu'ils écoutent.
Justement, c'est
pour qu'ils écoutent ça. Si tu es en première et que tu veux passer l'examen du bac, c'est une fraude. Donc, il faudra que les parents comprennent cela. Si l'enfant va passer le bac en première, qu'on le prend, cette année-là, eh bien, l'enfant, il est sanctionné. Et puis il va rester 3 ans avant de passer le bac. C'est acté. Donc il faut l'éviter.
Donc étant en 4e, il faut éviter de passer en avance l'examen du BEPC.
Passe ton examen, va en 3e.
Et étant en première, il faut éviter de passer le bac étant en première.
Voilà. Sinon, d'accord. Tu es sanctionné. Il y a aussi qu'on peut signaler dans une salle de classe, par exemple, il y a des professeurs, par exemple, qui montrent et de façon globale. Les enfants. Et donc, si toi, élève, tu n'es pas d'accord, tu peux signaler cela au centre. Ah, dans notre salle, voilà ce qui s'est passé. Il faut signaler. Il y a également des numéros verts que les parents doivent avoir. S'il y a des tentatives de tricherie, tout ça, ces numéros verts, nous les avons. Il y a le 01, 01, 33, 28, 28.
01, 01, 33, 28, 28.
Il y a le 07, 99, 23, 23, 23. Il y a le 07 99 26 26 26. Vous pouvez signaler. Mm-hmm. Par exemple, si vous allez, le monsieur et le professeur vous demandent bic vert ou bic rouge, vous ne voulez pas vous faire corrompre. Vous allez discrètement dans le centre et vous signalez, voilà, tel professeur dans telle salle, voilà ce qui est en train de se faire. Et en ce moment-là, on vient, on prend le professeur et on l'extirpe de là pour qu'il ne puisse pas gangréner l'examen en question. Et donc, il y a beaucoup de conseils, mais comme on n'a pas suffisamment de temps...
Je pense que l'essentiel temps, a été dit. Voilà. On va surtout mettre l'accent sur les différents numéros pour dénoncer les cas de fraude qui sont le 01-01-33-28-28, le 07-99-23-23 et le 07-99-26-26. Et 26.
Voilà.
D'accord.
Avec ça, on peut dénoncer.
D'accord. On va terminer notre espace de discussion avec aussi le rappel du calendrier des examens scolaires 2023 établi par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, il faut savoir que les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEPE se dérouleront le lundi 5 juin 2023 et la proclamation des résultats se fera le mardi 20 juin 2023 concernant le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Les épreuves physiques et sportives ont eu lieu déjà du lundi 24 avril au samedi 6 mai dernier. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du mercredi 7 au samedi 10 juin prochain et la composition des épreuves écrites du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet 2023. Quant au baccalauréat, toutes filières confondues, c'est-à-dire général, techniques et artistiques. Les épreuves physiques et sportives et écrites se dérouleront sur la période allant du mardi 20 juin au vendredi 7 juillet 2023 et la proclamation des résultats se fera le lundi 24 juillet 2023. Voilà, pour aujourd'hui, parler de fraude aux examens scolaires. Nous étions pour la sensibilisation avec Claude Tadio Aka, le président de l'OPCI, Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Également sur le plateau, Bohou Béranger, le coordinateur national du mouvement citoyen Ta Voix Compte. Chers invités, encore merci pour votre contribution. Et à vous, amis auditeurs, merci de nous avoir suivis.